micro. Micro, microscopie, suite. Suite, microscopie, suite. Édouard Zambo.
On se retrouve pour la seconde partie de Microscopie. Le thème aujourd'hui de l'émission Être français, un vaste programme pour 40 minutes. Comment les jeunes adultes issus de l'immigration voient-ils leur appartenance nationale? La revendiquent-ils? Sur quels critères? Et puis aussi, quels sont les autres critères? Et quelle est la différence entre identité et nationalité? Autant de questions que nous abordons aujourd'hui avec Evelyne Ribert, chercheuse au CNRS et auteure du livre Liberté, Égalité, Carte d'Identité, paru aux éditions La Découverte. Des références que vous retrouverez sur la page de Microscopie sur le site de RFI. Evelyne Ribert, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre identité et nationalité?
Donc, la nationalité, c'est le critère juridique. L'identité, c'est plutôt ce que les personnes disent se sentir être ou quelque chose comme ça, quoi. C'est comme ça qu'on peut différencier. Il n'y a pas forcément une adéquation entre la nationalité effective que les personnes ont et le sentiment d'appartenance qu'elles peuvent déclarer.
C'est toute la difficulté de définir une identité nationale, là.
Quand on parle d'identité nationale, moi, tel qu'on l'entend dans le discours politique, on parle d'une identité qui est collective, qui concerne l'ensemble des personnes. Or, au niveau des jeunes nés en France de parents étrangers, il s'agit plutôt de l'identité de chacun d'entre eux, quoi.
Justement, sur cette définition de l'identité, je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de ces jeunes, toujours que Céline Develay-Mazurel est allée rencontrer l'identité Kézako pour eux.
J'ai l'impression que quand on dit identité nationale, c'est... Identité, ça veut dire que voilà, en fait, on n'en fait pas partie. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'on veut trier. En fait, il y a des Français qui sont des vrais Français, et puis nous, on est des faux Français, en fait. On est des Français, mais des faux Français. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce mot-là, il m'inspire pas confiance. En fait, j'ai l'impression qu'on veut nous exclure de quelque chose de.
Ça te fait un petit peu peur.
Ouais, voilà, en fait. Enfin, ça me fait pas peur, mais ça me met mal à l'aise, en fait. Je me dis, en fait, toi, t'es pas comme les autres. T'as beau avoir tout comme les autres, mais t'es pas comme les autres, en fait.
Ben, l'identité nationale, pour moi, ce serait l'identité de la France et pas l'identité française. C'est l'identité de la France, c'est-à-dire ce que la France est. Certes, la France est une démocratie, enfin, une république, oui, la France est indivisible, et etc., etc., mais donc, ça, c'est l'identité de la France. Mais l'identité française, elle peut pas être résumée par l'identité de la France. On a des personnes, des Français, qui ont exactement la même mentalité que des Algériens, qui ont exactement la même mentalité que des Italiens. C'est pas l'État qui fait les individus, par exemple.
Je pense qu'en fait, c'est depuis les crises, la crise des banlieues, la crise du chômage, qu'on parle plus de la crise d'une identité nationale. Avant, peut-être c'est parce que c'est avec la montée... de Le Pen dans les sondages qu'on a plus mis ce thème en avant, crise identitaire ou qui sont les Français ou est-ce que un Tunisien ou un Marocain ou un Sénégalais français issu de l'Afrique est vraiment français. Avant on voyait moins ça avec plus l'immigration qu'on a parlé de crise identitaire. Moi je pense que c'est pour plus, on va dire, freiner l'immigration qu'on a parlé de crise identitaire. Dire que l'immigration, c'est une menace pour l'identité nationale française, moi, je trouve ça choquant parce que la France, c'est une terre d'asile. On y trouve toutes les origines et il n'y a qu'une seule nationalité, c'est la nationalité française. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas une culture française, mais des cultures françaises. Et c'est cette diversité qui fait la richesse de la France.
Evelyne Ribert, vous, la crise qui déclenche la question autour de l'identité nationale, vous la situez dans les tribunes d'un stade de foot en 2001, au moment du match entre la France et l'Algérie, où tout d'un coup, la Marseillaise est sifflée et ça provoque une vague d'émoi dans la classe politique.
Disons que c'est à ce moment-là que ça refait surface, alors que ça avait déjà fait surface dans les années 80. Mais disons que là, ça réapparaît, alors qu'avec la Coupe du Monde de football de 98, on était plutôt dans une France black-blanc-beurre, où on était un peu loin de ce genre de crainte.
On a l'impression qu'il y a des perpétuels mouvements de balanciers dans ce débat. On va pratiquement, en très peu de temps, sur des périodes de quelques mois ou de quelques années, vanter une France métissée qui aurait réussi au lendemain de la victoire de la Coupe du Monde, et puis s'inquiéter d'une France qui serait en train de se déliter. Elle est où, la vérité?
Oui, il me semble que la vérité, elle est plutôt du côté de la France métissée, et que les craintes qu'il peut y avoir sur une identité nationale, c'est plutôt des crispations, parce qu'il y a des peurs générales par rapport à la mondialisation, par rapport au développement de l'Europe et que toutes ces peurs se focalisent un peu sur les jeunes issus d'immigration dont on craint qu'ils constituent une menace pour l'identité nationale. Mais je crois que ce sont des phobies qui ne sont pas fondées.
Alors, il était dit hein, dans ce petit témoignage la notion de vrai français, de faux français. C'est des choses que vous avez beaucoup entendues, vous aussi, et vous définissez ces jeunes issus de l'immigration comme des éternels enfants d'immigrés. Il est impossible pour ces jeunes de sortir de cette condition qui les définira ad vitam aeternam.
Non, je dis pas qu'il est impossible d'en sortir. Moi, j'espère bien qu'ils en sortiront. Mais disons que eux, dans leur discours, ce qui transparaît, c'est effectivement la crainte d'y être toujours enfermé. Moi, c'est tout à fait ce que dit la jeune femme qu'on a entendue, c'est la crainte d'être toujours défaut français, quoi qu'il puisse faire.
Il y a une question par rapport à l'éducation. Vous les avez fait parler, ces 50 jeunes, sur leur cours d'éducation civique, sur les valeurs de la République, sur des choses comme ça.
Alors, moi, je ne les ai pas fait parler sur les cours d'éducation civique. Je les ai plutôt fait parler sur la France d'un côté et sur le pays des parents de l'autre. Et moi, je les ai fait un peu décrire les deux. Et à travers ce qu'ils disent, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont profondément attachés à la France et qu'ils partagent très largement les valeurs qu'on peut retrouver en France. Donc, bon, ils sont très attachés, par exemple, à l'État-providence, ils sont très attachés à la solidarité et surtout, ils sont très attachés à la méritocratie. C'est-à-dire que, moi, l'école, c'est vraiment quelque chose que ces jeunes aiment beaucoup, qu'ils y sont beaucoup attachés, et pour eux, c'est à travers l'école qu'ils auront une chance de réussir en France. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils peuvent considérer que le fait que leurs parents soient venus sur les territoires français, pour eux, c'est une chance. Je crois que c'est vraiment quelque chose auquel ils adhèrent très profondément.
Vous avez fait trois grandes familles, en fait, parmi ces jeunes. Vous pouvez nous les détailler
Alors, moi, la première grande famille, donc, c'est ceux qui veulent partir dans le pays des parents, qui ont un projet précis de départ dans le pays des parents. Ce sont essentiellement des jeunes de parents européens, donc ils veulent repartir au Portugal ou en Espagne, qui ont souvent été socialisés dans un milieu très espagnol ou très portugais, suivant les cas. Et qui, dans ce contexte, ne prennent pas la nationalité française. Ils sont, d'après les statistiques, ils sont extrêmement minoritaires, ces jeunes-là. Ensuite, la deuxième grande famille, c'est ceux qui rêvent d'un retour dans le pays des parents, mais en fait, ils n'entretiennent avec le pays des parents qu'un lien très largement utopique.
Un Eldorado,
oui,
un peu...
Voilà, c'est parce qu'ils se sentent pas très bien en France qu'ils pensent que là-bas, ça pourrait être mieux, mais en fait, ils prennent la nationalité française. Certains négligent de conserver la nationalité de leurs parents. J'imagine qu'éventuellement ils l'ont perdu et de fait ils vont faire leur vie en France. Et enfin, les derniers sont ceux qui veulent très clairement faire leur vie en France.
Qui sont les plus nombreux.
Qui sont les plus nombreux et pour lesquels on peut dire que la France est véritablement leur pays.
Justement, à propos de cette double culture, double identité, double appartenance, je vous propose d'écouter le témoignage de Mohamed. Lui, il est partagé entre France et Tunisie et il nous raconte comment est-ce qu'il vit cette double identité et comment est-ce qu'on le renvoie un peu en permanence de l'une à l'autre.
En France, il y a des gens qui disent « oui, t'es un étranger, t'es ci, t'es ça ». Alors que quand je vais en Tunisie, les gens me disent « t'es pas tunisien, t'es français ». Je sais pas quoi leur répondre, moi. Il y a vraiment une confusion entre ces gens-là. Et je pense que c'est cette perte d'identité, si on pourrait dire, qui peut créer des troubles chez les gens.
Toi, tu les as, ces troubles-là, comme tu dis ?
Ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit « on peut racheter des deux côtés ». Je suis quoi au final ? Mais après, je me suis dit, voilà, je suis né en France, si c'est ça, je suis français, donc je peux pas aller contre ça, c'est un fait. Bon, on va dire, je suis à la fois français parce que je suis né ici, on va dire, la France m'a rendu service toute ma vie en me permettant d'étudier, de grandir ici. Mais en même temps, je suis tunisien parce que mes parents le sont, je veux dire, c'est quelque chose, ça, c'est un fait, je peux pas aller contre ça. Vu que je suis français, je fais partie de la France, voilà. On va essayer à le dire.
Pourquoi c'est difficile à dire ?
C'est difficile à dire parce que je veux dire, si quelqu'un me connaît pas, si quelqu'un ne sait pas que je suis en France, je sais pas si, avoir un certain nombre de préjugés, on va se dire celui-là, il va pas se dire, voilà, je suis français. Par rapport à mon nom, par rapport à.
Parce que tu t'appelles Mohamed et que t'as un physique maghrébin ?
Ouais, moi je suis français, mais je veux dire, aux yeux de beaucoup d'autres gens, ils me verront comme un étranger, quoi.
Et c'est ça qui fait que c'est difficile à dire, je fais partie de la France.
Ouais, quand même, c'est difficile, parce que quand on sait qu'il y a une partie de la population qui ne nous voit pas comme français, dire je fais partie de la France, c'est des choses normalement évidentes à dire, mais pas si évidentes que ça en fait. L'histoire nous a montré que c'est pas toujours évident de dire ce genre de choses-là.
À quelle histoire tu fais référence ?
À la France quand même, je pense direct à la colonisation. La France a un vaste empire colonial, mais je veux dire, tous les gens colonisés n'étaient pas pour autant français. Donc, Il y a tout cet écho historique qui m'empêche un peu de dire que je fais partie de la France. Pourtant, je devrais pas, mais je veux dire, ça a toujours un effet, un petit peu.
Donc tu portes à la fois le regard des autres qui te renvoient parfois le fait que tu serais un étranger alors que c'est pas le cas. Mmh. Et tu portes aussi le poids encore plus lourd de l'histoire des colonies. C'est fou, ça.
L'histoire des colonies, on peut pas le renier. C'est dire la France, hein, qui, dans tout son empire colonial, je veux dire, elle a pas fait que du bien. C'est pour ça que, même consciemment ou inconsciemment, ça a toujours un effet sur les personnes, sur les fils d'immigrés, sur les fils, sur les descendants de ces pays-là. Donc la colonisation, c'est encore récent. Hein. C'était, par exemple, la Tunisie était indépendante en 56, l'Algérie en 62. Ça fait quoi? Ça fait 50, 60 ans. Je veux dire, on peut pas encore oublier ce genre de choses-là. Quand même, la France est restée 130 ans en Algérie, c'est pas rien. C'est normal que les esprits soient encore marqués par cet épisode.
microscopie@rfi.fr La société au microscope.
Est-ce que c'est si difficile d'affirmer une double filiation pour ces jeunes issus de l'immigration?
C'est pas toujours aussi difficile, ça l'est parfois, ça l'est pas toujours. Moi, se dire français, c'est assez difficile puisque c'est quand même aller un peu dans le sens de...
D'un reniement?
Non. Moi, je dirais pas tant d'un reniement, mais c'est aussi aller dans le sens de ce que les Français veulent entendre, si vous voulez. Et je crois que déclarer une double filiation ou se dire éventuellement plus tunisien, etc., c'est aussi une façon de résister un peu à l'assignation identitaire, de retourner un peu le stigmate. Et donc je crois que c'est pour ça que c'est difficile de se dire français, parce que les jeunes ont besoin de retourner le stigmate, d'affirmer une fierté, alors qu'ils sont très souvent assignés à une identité dévalorisée ou quelque chose comme ça.
Parce que vous décrivez hein, ces jeunes qui se définissent, alors avec un nombre de pourcents, il serait 13% tunisien, 61%, enfin. Mais cette espèce de quantification de l'origine est très fréquente.
Oui, moi, elle est relativement fréquente, effectivement.
Et ils insistent aussi dans les témoignages que vous rapportez sur cette espèce de volonté de fidélité à leurs parents, à leur famille.
Oui, je crois que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de fidélité aussi bon, par rapport aux parents. Je sais aussi important dans les relations qu'ils entretiennent avec leurs parents. Ils ne peuvent pas non plus renier complètement. C'est pas possible. Et puis, moi, c'est tout à fait normal qu'ils aient besoin de se positionner et par rapport aux uns et par rapport aux autres.
Quels sont les critères qu'un adolescent, issu de l'immigration, parce que c'est cela que vous avez rencontré, mais peut-être plus généralement, qu'un adolescent utilise pour se définir?
Alors, un des critères qui était assez important, c'est le fait de vivre en banlieue, par exemple, pour ceux qui habitaient en banlieue. C'est-à-dire que certains m'ont envoyé que la question de la nationalité, c'était pas important, la question de la nationalité des parents, c'était pas important non plus, que le véritable clivage passait en fait entre les jeunes de banlieue et les jeunes des autres quartiers. C'était ça,
le critère déterminant.
Oui, absolument, tout à fait.
Vous dites que le mode de construction de l'identité nationale est en pleine refondation, qu'il évolue. De quelle manière aujourd'hui? Vers quoi est-ce qu'on s'oriente à votre avis?
Disons que ce que j'essaie de montrer, dans ce qui me semble, c'est qu'en fait, l'identité nationale, c'est quelque chose qui a de moins en moins d'importance. Donc, pour les jeunes nés de parents étrangers, mais aussi plus largement pour les jeunes nés de parents français. C'est-à-dire, je crois que c'est un mouvement général qui fait que moi, le modèle national d'appartenance est un peu périmé, un peu mis en cause. On peut le voir à travers des enquêtes au niveau européen sur l'ensemble des jeunes européens. On s'aperçoit par exemple que les jeunes français sont ceux qui ont un sentiment d'appartenance nationale qui est le moins fort, moi, avec les Italiens, hein, à la différence des Anglais. Des Suédois, de différents pays. Donc je crois que le modèle national avec un peu de patriotisme, etc., c'est quelque chose qui commence à être un peu suranné. C'est-à-dire qu'il a été très fort au moment de la Seconde Guerre mondiale et que maintenant, avec le temps qui passe, c'est quelque chose qui est de moins en moins important pour tout un chacun. Et donc, pour les enfants nés de parents étrangers, c'est la même chose. Et justement, moi, le fait que le sentiment d'appartenance nationale soit pas quelque chose de très fort, ça montre justement leur intégration.
T'es qui toi, t'es qui et moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui et moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi?
Et vous devez remercier. Je rappelle le titre du livre que vous êtes venu nous présenter, nous expliquer. Aujourd'hui, liberté, égalité, carte d'identité, sous-titré Les jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale, un livre publié aux éditions La Découverte. Merci de votre attention. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur le site de Microscopie, dans la rubrique des émissions de société du site de RFI, www.rfi.fr. Vous retrouverez évidemment les références du livre dont nous avons parlé. Vous pouvez également nous envoyer vos réactions sur notre adresse électronique microscopie@rfi.fr. Tout de suite, vous retrouvez les nouvelles du monde. Bonne semaine à tous. Au revoir.
N'oublie pas qu'avant toi,
il y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
il y en aura, il y en aura. T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi? Il y en aura de la bavure
et des collés au mur.
Et dans ce tas d'ordures,
y aura-t-il toi, y aura-t-il moi?
Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi? Y aura-t-il les langues de bois? En tout cas, il y en aura. Du sang qui coule, il y en aura pas.
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi? Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi? Y aura-t-il les langues de bois des ciels? En tout cas, il y en aura. Du sang qui coule, il y en aura pas.
C'était qu'une fois, où ça ne finira? Mais tout ça,
c'est entre toi et moi.